Archéologue du futur, pionnier du digital, pour être en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chin 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Lamine B, derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, la toute dernière de la saison 4, chapeautée par nos chroniqueurs Hind Benranem, Hatem Hosseini et Karim Mbark, avec en guise d'invité Madame Yasmine Hachi et Monsieur Moussa Daoud de Technologie. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci.
Place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you
my job, my days. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell.
Une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Il est 18h12 sur les ondes de Radio Alger-3 et d'Amen Assel derrière son fidèle micro pour vous servir accompagné de Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, en l'occurrence Hind Benranem et Karim Mbarak. Messieurs, dames, bonsoir.
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 Face à vous, nos deux invités du soir, Madame Yasmine Hachi et Monsieur Moussa Daoud de Technologie. Marhaba bikoum.
Merci. Bekouhla,
bonsoir.
Karim, pourquoi est-ce que tu as eu envie de les inviter?
Bah, tout simplement parce que souvent, nous, parents, à chaque fois. Bon,
enfin,
une certaine.
Je pense que je suis le seul autour de la table.
Même la régie technique, mon cas. Donc, bon, j'ai vu plusieurs fois des parents dire que, bon, donne pas à mon fils, c'est trop compliqué, on lui apprend pas telle chose, laisse pas toucher telle ou telle chose, surtout quand c'est technique. Mm-hmm. Et j'ai découvert Technologie, une start-up qui fait l'inverse de tout ça et qui prouve que c'est toujours possible et c'est très très conseillé de faire entrer les enfants dans le domaine de la technologie très tôt. Comme ça, ils vont s'adapter et c'est pour ça que j'ai invité Daoud et Madame.
Alors, qui seriez-vous pour nous raconter la genèse de la start-up? Allez, Yasmine ou Moussa? Qui y va? Allez.
Ça va, j'y vais. Alors, Technologie, c'est une entreprise, par la suite labellisée start-up, qui est spécialisée dans le développement et conception de solutions.
D'accord.
Après, ça peut être des solutions soft, site web, application, plateforme, etc. Ou ça peut être des solutions hard.
Alors ça, c'est l'idée de départ.
C'est l'idée de départ, exactement. Carte électronique, etc.
D'ailleurs, on vous avait reçu parce que vous aviez un prototype il y a la mi-fête, je pense.
Oui.
Voilà.
On avait déjà le produit, c'est un kit, ça fait partie de nos produits, c'est un kit de robotique éducative.
Exactement.
Voilà. C'est un boîtier avec des composants dedans où ça peut permettre à l'enfant de s'initier au domaine, on dit de la robotique, mais quand on dit robotique, c'est électronique, mécanique et programmation.
Mais ça a évolué par la suite.
Exactement. Maintenant, on a plusieurs, c'est-à-dire il y a le kit débutant, le kit intermédiaire et le kit avancé. Et avec ça, on propose des formations ou bien des ateliers de montage de robots. Ça peut être des formats one shot, ça peut être de manière régulière. C'est-à-dire on a des élèves étudiants qui viennent de manière régulière pendant l'année.
Étudiants, carrément.
Ça va de 6 à 18, 19 ans, etc.
Très bien.
Du coup, ça soit ils viennent pendant l'année une fois par semaine.
Donc on a point de leur formation.
Exactement. Soit ils viennent, sinon pour les plus jeunes, ils viennent pendant la période des vacances. Parce que c'est là où ils ont beaucoup plus de temps. Ils viennent de manière beaucoup plus intensive. Ils font des formations, par exemple, de dimanche à jeudi, 2h30 par jour. Et ils peuvent assembler des robots, les programmer, utiliser plusieurs fonctionnalités et d'abord structurer leurs pensées et par la suite imaginer n'importe quel projet et le réaliser chez nous.
Alors on sait que les digital natifs sont très très à l'aise maintenant avec la programmation, etc. Le sont-ils aussi pour tout ce qui est hard, tout ce qui est électronique?
Oui, parce que toute l'idée est de faire correspondre ce qu'ils ont entre les mains, à savoir le kit de robotique, à un jouet.
D'accord.
Eux, déjà par définition, ils ont envie de savoir ce qu'il y a dedans. Quand on commence la séance, on a à peu près un quart d'heure, une demi-heure de théorique. Là, ils commencent à imaginer la salle, cahier, tableau, etc., stylo. Dès qu'on met le kit sur la table, c'est bon. Ils sont in, ils veulent voir où cette pièce peut aller, qu'est-ce qu'elle peut, à quoi elle peut servir, etc. Et puis, ça donne des idées. Mais je vais peut-être l'avouer aussi, même pour nous, c'est-à-dire on peut des fois les enfants nous donnent des idées de projet, c'est-à-dire et si on fait ça à tel moment-là, on se dit
il faut leur reverser un pourcentage par la suite.
Oui, mais bien sûr. Il y en a même ceux qui bossent avec nous maintenant.
D'accord.
Non, c'est vrai, je rejoins ce que dit Dawood parce que moi-même j'ai des neveux qui aujourd'hui sont dans des écoles privées qui ont le module robotique, nous qui activons tous les jours dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies, mais ils finissent par m'épater parce que pour eux, ça devient une évidence que de programmer quelque chose, je ne sais pas comment ils appellent ça à leur niveau. Ils sont sur des tutos parfois YouTube ou même les cours qu'ils apprennent dans quelle école et ils font des programmations. Je vois.
C'est quoi, c'est du Arduino, c'est.
Je ne saurais te dire exactement, cher Eda, ce qu'ils font, mais en tout cas, ils parlent entre eux, ils discutent technologie, ils discutent programmation, ça parle de robotique. Ils n'ont même pas 10 ans, que je salue d'ailleurs.
Daoud.
Spécialement Daoud.
Qui précède la question. J'aurais peur.
J'ai peur, j'avoue.
Non, il ne faut pas. Elle est simple parce que je suis toujours curieux. Et comment vous avez établi...
C'est ta formation initiale. Hein, voilà. Voilà. Je sais que c'est un secret qu'il ne fallait pas dévoiler.
Électronique, pas robotique. Je n'ai pas eu la chance de faire ça. Pour les enfants, c'est-à-dire... Tout à l'heure, vous avez dit entre 6 et 18 ans. J'imagine que le programme est un peu différent.
Bien sûr, c'est même le rythme, la cadence des cours est différente.
D'accord. Et pour les enfants, quelle méthode, c'est-à-dire quelle est
la
pédagogie pour qu'ils acquièrent des expériences?
Voilà, pour les parents qui sont en train de nous écouter, par exemple, on va essayer par tranche d'âge. S'il a 10 ans, quelle serait la formation idoine?
Alors, chez nous, 10 ans, il peut absolument tout faire.
Ah,
oui. Là, on donne des différences. Quand il a 6 ans, là, c'est pas la même chose qu'à partir
alors,
de 8 ans.
Alors, on commence par 6 ans, par exemple.
6 ans.
Faites-nous rêver tous les deux.
6 ans, il peut assembler un robot qui est autonome et qui peut être suiveur de ligne. Mais on ne va pas le programmer.
C'est-à-dire, donc, pour l'instant. Avec des capteurs.
Avec des capteurs, des actionneurs qui sont des moteurs, etc., des roues. On va essayer de réfléchir à la place du robot. Quand ce capteur-là voit telle chose, il
le
fait
robot
ceci.
Agit de telle manière.
Exact.
Et inversement. Mm-hmm. Mais pas de programmation pour l'instant parce qu'on a des problèmes des fois de langue, c'est-à-dire ils peuvent
mais des débuts d'algorithmique.
Des débuts d'algorithmique, ça c'est
et surtout des notions de base en électricité. On commence par un circuit électrique, un isolant, un conducteur, circuit ouvert, circuit fermé, parce qu'à 6 ans, ils sont pas tous capables d'écrire et de lire. C'est pour ça qu'on peut pas y aller vers la programmation. Et encore
si on lui montre un bouton, si on lui montre une fermeture, une ouverture, là son cerveau est capable d'assimiler.
Là pour lui, c'est un jeu. Là, du coup, pour lui,
si je fais ça, il se passe ça.
Je fais ça, c'est exactement la même chose comme les petits enfants. on se dit, ah, c'est bizarre, il a retrouvé YouTube sur smartphone, ou bien oui. Il a retrouvé une application, puisqu'il a une mémoire visuelle, il fait 1, 2, 3, et puis il clique. C'est exactement la même chose.
Il va pas réfléchir à pourquoi, comment c'est une fenêtre exact. Qui va générer un code et l'afficher. Hop, ça fonctionne.
Pour lui, ça clique, ça marche. Et justement, ça marche. Du coup, on utilise ces connaissances-là par rapport à un enfant, on lui dit, bon, on veut réaliser telle chose. Et on essaie d'aller au maximum de ce que peut rapporter cette technologie. Par exemple, si on ne programme pas, on peut faire un robot qui peut être suiveur de ligne, mais que ça. Après, on lui dit, bon, avec les mêmes capteurs, exactement le même robot, et si on veut faire...
Si je modifie de telle manière et que je l'upgrade, là, il est capable de prendre un virage.
Oui. Si on lui donne des ordres, il pourra les faire.
Justement, d'accord. Qui donne ces ordres? Est-ce que les enfants aujourd'hui sont capables d'imaginer des instructions à donner aux robots? Et ça donne...
Faire des automates.
On a affaire à ce qu'on appelle de la programmation visuelle.
Très bien.
Adaptée à l'âge de 7, 8 ans, voire 10 ans. Alors, les enfants programment ces robots-là avec des blocs colorés. L'objectif, c'est de structurer leur pensée logique. Donc, on leur demande... D'ailleurs, par rapport à la pédagogie, c'est des jeux. Mm-hmm. Chaque séance, c'est un challenge. Alors, aujourd'hui, vous êtes appelé à programmer le robot pour détecter les obstacles. Alors, réfléchissons comment on va faire ça. Et généralement, on montre déjà le scénario. On leur donne un robot qui est déjà préprogrammé. Voilà, le robot, quand on dit un robot détecteur d'obstacles, voilà ce qu'il va faire à la fin. Donc, comment tu dois faire pour arriver à ce résultat-là? Après... Parce que c'est ludique. Il va se dire, voilà, si jamais il retrouve un obstacle, il doit reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Ils essayent aussi de retrouver des exemples de la vie réelle, généralement, quand ils stationnent automatiquement.
Un processus, en fait, de réflexion est schématisé et lui permettra de comprendre, d'avoir un béaba de programmation. Oui. Kerem.
Moi, je reviens toujours à l'enfant.
Comme le robot en question.
Voilà, exactement. Je suis la ligne.
Tu es notre cyborg de l'émission.
Qu'est-ce qui se passe quand il n'arrive pas à assembler le robot? C'est-à-dire, votre équipe est-elle formée ou vous avez des gens spécialisés pour prendre en charge ces enfants? Je pense qu'il sera...
Aux besoins particuliers.
Voilà.
Aux besoins particuliers ou...
Non, pas uniquement.
Parfois c'est-à-dire, frustré de l'échec.
Voilà. Alors, l'enfant est frustré et autre chose...
À la raison précisée, parce que ce sont deux cas de figure.
Exactement.
Différents.
Voilà. Exactement. Et l'autre cas, pour les enfants, qu'on est trisomiques ou autistes, est-ce que vous prenez aussi en charge ces gens-là pour apprendre la robotique?
Alors, pour déjà... les mêmes droits qu'un enfant normal,
alors,
justement?
Alors, je vais déjà commencer par les gens qui retrouvent des difficultés par rapport à l'assemblage. Alors, par rapport à l'assemblage, nous avons 2-3 méthodes différentes. Alors, soit ils ont une vidéo qui vont suivre par rapport à l'assemblage, soit ils ont un schéma qui montre les étapes de l'assemblage. Sinon, on leur donne un robot déjà prémonté. Il va essayer de déduire les étapes d'assemblage. Mais il a les 3 options.
Ouais. Mais s'il est frustré, il n'arrive pas à le faire. Il y a des enfants qui sont...
Justement, ça, on ne demande pas de monter un robot directement.
Ça se fait d'une manière progressive.
Il faut mettre cette pièce-là à telle place. Et puis, il faut mettre ceci, cela. Il faut serrer ce vis. Du coup, généralement, ils ne se perdent pas. Une des trois méthodes, c'est soit ils sont... comment on dit, l'amirfaf. Écoute, t'as le robot, et ça.
Et ça, c'est dans tout, hein, que ce soit pour les maths, pour normal.
Exact. Okay. Soit on doit y aller étape par étape, mm-hmm. dans le sens où il faut suivre cette vidéo et refaire exactement la même chose. Soit c'est carrément un schéma où il faut prendre cette pièce là et l'autre pièce et la mettre dessus, etc. Et avec cette méthode,
les expérimentations mécano qu'on faisait quand on était jeune.
Et c'est tellement ludique, c'est à 100%, ils peuvent le réaliser.
Vous avez niché des génies comme ça.
Oui, justement, c'est nous, à force maintenant, c'est un peu plus de 3 ans, c'est on a beaucoup d'histoires dans ce sens-là. Et puis, il y a des enfants, pour ceux qui connaissent, on a un enfant qui est actuellement en formation chez nous, qui développe sur du Linux.
D'accord. Hein,
parce qu'il a, bon, il a découvert via la robotique. Après, bon, programmation, il s'est senti plus à l'aise. Lui, mécanique, c'est pas son truc. Il le fait, mais il n'est pas content. Électronique, même chose. Tout ça, câble, etc., course et puis ça n'intéresse pas. Soft, et puis il a commencé à s'intéresser.
On a tous des appétences pour une discipline particulière.
Exactement. Et si l'objectif de la robotique, elle réunit pas mal de disciplines, on peut découvrir plein de choses à travers.
Un genre de tronc commun.
Exact.
Et lui, il a eu la chance de découvrir ce qu'il passionnait assez jeune, et puis maintenant il est, on peut même le dire, il est bien avancé par rapport à, on va dire, 70% des étudiants qui sont dans le domaine.
Et maintenant il va racheter votre start-up et vous mettre au chômage.
Je reviens aussi à mes neveux, parce que j'ai découvert que grâce à cette discipline, ils apprennent à parler anglais plus facilement, parce qu'ils sont habitués à une terminologie plutôt anglais que... Donc c'est très intéressant. Comment dans ce cas-là on peut rassurer les parents pour pousser leurs enfants à aller vers ce type
formation. Généralement, les parents, ils ont, on va dire, entre deux ou trois questions phares. Okay. La toute première, c'est si mon fils ne comprend pas telle langue. Par exemple, mon fils ne parle que français.
C'est ça.
C'est les lettres qu'il peut parler. Non, non, il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce que tu as
généralement, il y a nos clés.
J'ai bien les bonnes questions.
Les parents, là.
Deuxième question, c'est est-ce qu'il ne va pas perdre son temps? C'est-à-dire, le but, c'est l'utiliser de manière... Après, tout dépend
de optimiser sa participation. Ça, qu'ils optimisent son temps.
Mais il faut qu'il apprenne quelque chose. Mais est-ce qu'il ne va pas détester l'école aussi?
Bon, pour l'instant, alhamdoulilah. Mais pour le reste, généralement, surtout, comme l'a dit Yasmine, comme ils font les cours le week-end, généralement, ils veulent absolument y être.
Très bien.
Et les parents commencent à stresser de qu'on est à l'approche d'examen, etc. Est-ce qu'il peut ne pas venir, etc. Mais son fils insiste pour venir. Du coup, est-ce que finalement c'est intéressant ou bien il est en train de jouer seulement? On lui dit, bon, il faut le tester. Comme ça, vous allez...
Parce que la pédagogie utilisée, c'est un jeu. Les parents, pour eux...
Ils ne prennent pas ça au sérieux, en fait.
Exact. Alors que non.
Il y a toujours le cliché.
Pour attirer les enfants, on doit passer par...
Il faut souffrir pour apprendre.
Les enfants ont compris, mais les parents n'ont toujours pas compris.
Jusqu'au jour
où... Il y a les parents...
Jusqu'au jour où un parent vient, par exemple, il dit, bon, j'étais tout content avec sa maman, il a réparé une veilleuse hier. Du coup, bon, c'est bien, etc. Il commence à voir un peu le fruit de sa formation.
Il a rentabilisé ses 6 ans d'existence.
Moi, ça me rappelle une fois, on avait fait un truc comme ça pour tout ce qui est réalité virtuelle.
Oui,
je pense en 2013 ou 2014. Et on avait insisté lors des inscriptions que les parents soient présents et assistent avec les enfants. Au début, ils étaient réticents, etc. C'était des séances de 2 heures. Et ben à la sortie, tu voyais, c'est leurs yeux. Et les enfants, tu te souviens, et les enfants et les parents étaient
émerveillés
de ça. La deuxième question, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous avez fait des partenariats avec des associations de trisomiques, etc. Moi, je suis membre d'une association de trisomiques. Et je voudrais éventuellement savoir, est-ce qu'ils peuvent venir assister? Est-ce que vous avez déjà fait ça, testé ce genre de...
Alors, on a travaillé avec des enfants qui ont un trait d'autisme, mais un trait léger. Mm-hmm. Ça n'a pas été trop compliqué, mais ça n'a pas dépassé la partie programmation. Ça a été difficile.
Parce que si ça évolue dans le spectre, ça devient assez compliqué. Justement. Il faut des pédagogues formés, etc.
Et encore, ils étaient assistés, ils étaient accompagnés avec
les
auxiliaires.
D'accord.
Par rapport à les trisomiques, c'était un tout petit peu... C'est plus compliqué que les autistes, qu'ils ont quand même un trait d'autisme léger. Mais
avec eux, on peut aller essentiellement sur la partie jeu plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire, on peut éventuellement.
Ce qui les intéresse, c'est plus le côté sociable, le fait de faire quelque chose ensemble.
Et encore la finalité de la chose.
Oui, déjà, moi, je pense à la base, apprendre à un enfant la technologie, il me semble que c'est plus difficile que de l'apprendre à un adulte qui a déjà certaines acquis.
Au contraire.
D'accord.
Parce que l'enfant, on va essayer de changer le mindset. Au lieu qu'il soit un consommateur de cette technologie, il devient développeur. Okay. Après, la manière dont il voit les choses change. C'est-à-dire, maintenant, ils sont tous accros aux applications mobiles. Oui. Alors, le niveau 3 de la robotique, ils sont appelés à programmer une application mobile. Alors, on utilise un langage visuel, bien évidemment. Mais une fois qu'ils finissent l'application mobile, après l'application, quand ils utilisent d'autres applications qui existent déjà, notamment les réseaux sociaux,
ils arrivent à en décortiquer le
Il va se demander pourquoi, lorsque j'appuie sur le bouton, ça change, j'entends un clic. Il essaie de comprendre et encore, il réfléchit à l'âge. Tout ça arrive.
J'ai envie de poser une question probablement naïve. Ce sont des formations diplômantes ou pas? Donc, et si, non.
Sont qualifiantes.
Qualifiantes, oui. D'accord. Et donc, votre tutelle, c'est quel ministère, par exemple? C'est l'éducation.
On est privé.
Non, c'est une start-up.
Privé.
Mais l'année dernière, il me semble que tu avais lancé quelques bouteilles à la mer pour essayer de créer des partenariats. Où est-ce que ça en est?
On avance très bien avec le privé.
On est
près de sur une vingtaine d'écoles partenaires que sur Alger, d'accord. En plus d'autres wilayas.
On intervient dans le cadre des activités extrascolaires.
Plus avec les écoles privées, on a 3 façons de faire. C'est soit ils intègrent le programme à part entière, c'est ils ont
comme module
robotique.
Très bien.
Généralement, ils ont technologie, etc. Mais eux, ils utilisent des robots pour le faire. Soit c'est des one shot. Par exemple, on fait ça pendant les vacances, 5 jours, et puis c'est tout. Soit, ils font ça de...
En appoint de...
Activité extrasolaire, mardi après-midi, etc. C'est un peu l'équivalent de Tarbiyat Chkilia.
Très bien.
Voilà.
Tu as eu Tarbiyat Chkilia? J'ai jamais eu ça.
C'est ça.
On nous a arnaqué à l'époque. Allez, petite pause, on revient juste après. I want to see you putting your hands in the air for DJ House.
Présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger Chin 3.
h 32, vous écoutez toujours Médiatique sur Radio H1 3 en compagnie de nos deux chroniqueurs que le monde, l'univers, le continuum espace-temps nous envie, en l'occurrence Karim Barak et Hind Ben Ghanem, face à eux, nos invités du jour, Madame Yasmine Hachi et Monsieur Moussa Daoud de Techmologie. C'est la dernière émission de la saison 4, messieurs dames.
Exactement. Alors aujourd'hui, c'est j'attends le gâteau.
Juste après l'émission, c'est promis. Hinda, tu avais encore des questions.
En fait, plutôt une observation. Je me disais, est-ce que tous les enfants aujourd'hui ont accès à cette formation? Est-ce qu'elle existe dans les écoles privées ou seulement dans le privé? Sinon,
et est-ce
est
que c'est cher?
Et est-ce
voilà,
que c'est cher?
C'est la question que tous nos auditeurs se posent.
Tout à fait.
Alors, je vais répondre en trois temps. Nous, on fait du mieux qu'on peut.
Très bien.
Est-ce qu'elle est disponible partout? On essaye de la rendre disponible partout.
Tu parlais de 20 écoles tout à l'heure,
20 écoles privées sur Alger. Voilà. Ouais. Les autres, bon, c'est des 2-3 écoles par wilaya, privées toujours.
D'accord.
Le public, pas encore. Par rapport...
Tu as tenté?
Oui, oui, tant à plusieurs reprises. Ça. On essaie de proposer...
Les réponses étaient quoi en général?
Généralement, pas de réponse.
Ah, même pas un refus.
Généralement, on doit voir et puis plus rien.
C'est peut-être une volonté ou un manque de budget, en toute honnêteté?
Peut-être les deux.
Les deux.
Plus un problème de cadre juridique.
Okay. C'est surtout le cadre c'est juridique. Surtout.
Plus. Après, parce
qui,
que...
Mais qui serait facilement... on pourrait régler ça très très facilement pour peu qu'il y ait la volonté. Hein.
Exactement. Voilà. Exactement. On a tenté aussi les maisons de jeunes. Et on a bien avancé avec eux.
D'accord.
Par exemple, sur la wilaya d'Alger, on a fait une, ce qu'on appelle une formation de formateurs pour ceux qui arrivent dans les différentes maisons de jeunes. Et puis par la suite, ils commencent à proposer...
Chacun dans sa maison de
jeunes. Il faut l'acquisition du matériel.
Il faut l'acquisition, formation de formateurs, après...
Parce qu'ils ont déjà leur propre animateur.
C'est ça. Oui. Nous, on forme les animateurs, puis c'est tout. Et par rapport à est-ce que c'est accessible ou pas, c'est à 6000 dinars la semaine. Ça et encore c'est chez nous pour, par rapport à nos partenaires c'est autour de je pense 5500
c'est moins cher que de les mettre au sport en fait hein.
Exactement
c'est moins cher d'aller les emmener manger une journée
voilà plutôt que d'aller au sablette voilà.
Ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on essaie de rendre disponible ça au maximum on préfère avoir plusieurs groupes pleins qu'avoir de
et c'est tout à votre honneur
absolument alors il nous reste à peu près 20 minutes d'émission on va essayer de revenir sur l'année en cours sur les temps fort. Hint, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette saison 2024-2025 ?
Parfait. Bah, écoute, moi j'ai remarqué qu'il y a eu une explosion dans le secteur du digital, tout ce qui est e-commerce, la communication digitale, l'IA qui est en force cette année. On en parle.
Changer le paysage.
Tout à fait. Donc, et puis après, il y a des événements qui sont aussi dédiés à cette dynamique de digitalisation en Algérie notamment. Mais aussi le module d'ailleurs robotique, j'allais en parler tout à l'heure, d'ailleurs d'où nos invités et bien évidemment la réglementation qui aujourd'hui s'adapte de mieux en mieux à cette politique de numérisation générale en Algérie des start-up aussi qui voient le jour et je trouve
l'énorme
ça
travail sur les données à caractère personnel aussi
excellent bien évidemment pour protéger cette donnée entre guillemets algérienne et donc c'est prometteur je disais pour les années à venir et encore on est qu'au premier semestre de 2025 je pense qu'il y a encore de belles choses qui nous attendent cette année parce que de plus en plus de rencontres d'événements de conférences qui parlent autour de cette technologie qui devient aujourd'hui indispensable que ce n'est pas un luxe comme on le dit à chaque fois
très bien on va parler de ce fameux label startup puisque technologie a non seulement label startup mais celui d'innovation petit bilan ça vous a apporté quoi est-ce que ça vous a parce que vous étiez déjà une entreprise avant de switcher. Qu'est-ce que ça vous a apporté au quotidien comme facilitation éventuelle ?
Alors, par rapport à la Best Startup, on a d'abord, hormis l'aspect
défiscalisation
fiscale, etc. Voilà.
On peut rappeler, hein, ça permet quoi quand on a ce label ?
Ça permet, pour faire simple, de ne pas payer l'IBS.
Pendant une durée
pendant 4 ans
voilà
c'est ça de ne pas payer le bien
renouvelable
mais ça a été je pense que maintenant c'est devenu 8 ans ou ça va c'est devenir ça. 8 ans
non c'est 4 ans renouvelable.
Renouvelable 4 ans pas une année
non 4 ans
d'accord
ça peut
c'est récemment c'est récemment ça a changé
Ah bon
alors il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi c'est une mesure de soutien parce que lancer une start-up c'est risqué etc. Donc c'est en fait c'est un incitateur
et généralement on commence à gagner de l'argent à partir de la 3e ou 4e année
donc carrément c'est quelque chose maintenant avec sa piscine non,
mais c'est très important votre comptable peut le confirmer que quand on quantifie cette défiscalisation ça donne un souffle à l'entrepreneur
exactement mais surtout quand on a besoin de fonds au début généralement si on a besoin de lever de fonds, c'est un peu la manière de l'État d'éviter de payer des fonds au lieu de mettre des fonds.
Et surtout de ne pas reproduire l'erreur de l'ANSES et de ne pas encourager une certaine forme d'assistanat.
Tout à fait.
Et puis justement, c'est une expérience personnelle. On était justement en fin d'études. J'avais comme idée d'aller vers l'ANSES. Mm-hmm. Et puis, j'ai expliqué mon projet à plein de personnes. Et puis, non, finalement, ton projet, c'est pas ANSES. C'est start-up, parce que c'est
innovant.
Une idée. Exactement. C'est une idée qui n'existe pas, il faut du capital à risque et non pas du prêt, etc.
Mais au-delà de ces mécanismes réellement sur le terrain, qu'est-ce que ce label a pu vous apporter ?
A fortiori, donc, innovant.
Est-ce que ça ouvre, que ça vous donne une certaine crédibilité par rapport aux entreprises,
par rapport aux banques,
aux grosses entreprises ? Est-ce que vous êtes rapproché d'entreprises ?
Est-ce que ça attire les business angels ? Voilà le sens de la question de Kelly.
Écoutez, c'est un ressenti un peu personnel. C'est-à-dire, je suis partisan du fait que c'est l'entrepreneur qui attire, que ce soit la grande entreprise ou bien le business angel ou bien le VC, etc. C'est pas en ayant un label startup.
C'est
le projet lui-même et surtout l'entrepreneur. On l'entend à chaque fois de par nos partenaires, de par avec qui on bosse. C'est-à-dire, c'est le projet. Les personnes qui les intéressent. Sinon, on a un label,
Pourquoi je pose la question? Parce que on est tous sur LinkedIn autour de la table et très souvent on voit de longs statuts d'entrepreneurs qui se plaignent que l'État ne ferait pas suffisamment, etc. Et on a un peu l'impression de temps en temps que c'est un peu des caprices, voilà, quelque part, et que l'entrepreneur doit aussi aller au devant du marché. C'est ça en fait l'essence même de son aventure entrepreneuriale. C'est de tenter.
Exactement. Après, c'est la raison pour laquelle nous on voit le label. C'est on va dire c'est un mécanisme de l'État, ça donne des avantages d'État, fiscalité, etc., taux TVA réduit pour les franchises, etc. C'est
la soumission aux appels d'offres aussi.
Aussi il reste les textes d'application aussi.
C'est cela.
Donc on peut pas se baser dessus à 1000% pour l'instant, mais voilà, mais surtout par rapport à l'approche des entreprises ou bien des VC, etc. Ça dépend essentiellement du projet de l'entrepreneur. Du coup, on peut, ce que je dis souvent, même à des copains, c'est le temps.
Est-ce que c'est vrai qu'il le dit souvent?
Moi, je dis aux copains, c'est juste le temps qu'ils mettent à écrire. Bon, maintenant, il y a ChatGPT. Mais avant, le temps qu'ils mettaient à rédiger tout un post LinkedIn, bah, ils peuvent démarcher un ou deux entreprises, c'est meilleur.
C'est extraordinaire parce qu'on allait aborder la question de l'intelligence artificielle. Et alors, durant cette saison, on s'est intéressé à l'IA dans l'architecture, dans la médecine, dans les arts. C'est il y a une petite quinzaine de jours, etc. C'était la semaine passée.
Oui, avec Kuber.
Ah mais tout à fait. Vivement une intelligence artificielle qui présente médiatique à la presse. Alors, la semaine dernière, on avait eu un débat intéressant sur peut-être le marketing derrière l'IA. Est-ce que ce serait une véritable révolution ou alors ce serait vendu comme ça par Elon Musk et compagnie? Quel est?
Ah, moi.
Est-ce que ton avis a changé en une semaine?
Pas du tout. Moi, ma réflexion elle est simple, comme toujours. C'est un outil. Comme Facebook ou les autres réseaux sociaux, Aldo, etc., on l'utilise, c'est suivant ton utilisation. Moi, personnellement, depuis la sortie de, comme tu as dit, ChatGPT, il y en a eu des centaines après que j'utilise quelques-uns maintenant. Depuis sa sortie, ça m'économise du temps.
C'est vrai.
Et je fais le travail, disons, qui me prenait 2 à 3 semaines en 2 à 3 heures. Et j'utilise en ça. Je ne copie toujours pas. Je lui donne toujours pas à corriger mes fautes d'orthographe. Je le fais toujours.
Ah, quand même.
Donc c'est suivant l'utilisation,
ce que je te rétorque à chaque fois, c'est-à-dire que lorsque des techniciens comme toi qui utilisent l'intelligence artificielle en appoint de leur activité traditionnelle normale,
oui.
C'est tout à fait encouragé, c'est tout à fait formidable. Par contre, pour quelqu'un qui n'a jamais écrit un texte et qui demande à ChatGPT de lui en générer un, quelqu'un qui s'est pas cassé la tête à essayer de maîtriser Photoshop et qui du jour au lendemain, avec 2-3 prompts, se déclare graphiste, etc., etc., etc. Là, à terme, on risque une déperdition de l'intelligence et on risque une dépendance accrue par rapport à la machine.
J'ai vu une vidéo récemment d'un professeur, un ancien professeur.
Algérien?
Non, qui expliquait à un journaliste que c'est bien d'utiliser, par exemple, ChatGPT. Mm-hmm. Il lui conseille, en cours, de demander à tous ses élèves d'écrire l'histoire de Victor Hugo en 2 pages.
D'accord, en 2 pages.
Avec ChatGPT. Eh bien, tout le monde le fait, sauf que ChatGPT se trompe il se trompe sur la date.
Hallucination.
La date de sa naissance. Du coup, les enfants vont comprendre, après correction du prof, il leur dit non, le Victor Hugo est né tel. Donc, le savoir, il est concentré sur le professeur. Et l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est un appoint. C'est juste pour démarrer quelque chose.
Yes, me.
C'est un gain de temps et on a affaire à, surtout par rapport aux enfants, on essaye de proposer des choses d'actualité par rapport à la technologie. Et comme on a affaire à un domaine qui va très rapidement, l'IA nous aide à se ressourcer déjà et retrouver qu'est-ce qui se fait dans le monde. D'ailleurs, récemment, il y a la Russie et la Chine qui vont intégrer des modules de l'IA à partir de l'âge de 6 ans. Donc on essaye de voir ce qui se passe à l'étranger et via l'IA, on peut avoir toutes ces informations-là très rapidement.
Alors, je me refais l'avocat du diable encore une fois. fois, un enfant qui a 6 ans, qui essaie d'avoir des rudiments de codage avec des codes couleurs, etc. Donc il est face à son interface, il est en train de réfléchir, ça lui prend une heure, deux heures, une journée, une semaine, il finit par en comprendre le processus. Ouais. Par contre, s'il a ChatGPT ou une autre intelligence artificielle en face et lui dit bonjour, connecte-moi s'il te plaît ces circuits de la manière la plus optimale possible, et il a son résultat immédiatement.
Bonjour,
est-ce qu'il va assimiler le processus?
Justement, non.
Être fainéant pour le dire blablabla.
Non, justement, ChatGPT, etc., les LLM, c'est pas vraiment un outil éducatif. C'est un outil de travail, on peut l'utiliser, etc. Mais si on veut apprendre à un enfant les outils d'IA, là on peut parler de modèles, là on peut parler de technicité, là on peut parler de réseau de neurones, mm-hmm. et c'est autre chose. Et c'est là où...
Là c'est du deep learning, c'est
oui,
vraiment
c'est,
tout,
oui.
voilà.
Et c'est là l'équivalent du code en couleur, etc. Il peut éventuellement utiliser... Là maintenant, il y a une nouvelle discipline qui existe à cause des LLM, c'est le prompt engineer.
Oui.
C'est un ingénieur qui sait que prompter. C'est le meilleur qui sait parler aux machines. Donc, c'est,
Mais d'après notre invité de la semaine dernière, c'est aussi un gadget et c'est un métier qui devrait rapidement disparaître.
Exactement.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est philosophico, technologico, social.
Mais on avait dit, j'ai dit plusieurs fois ici que les références, c'est dit avec les auditeurs, c'est que les références maintenant de quelqu'un, de l'enseignement par exemple, comme l'a expliqué Reda, maintenant il faudrait qu'il comprenne vraiment le process, comment il a branché ce fil à ce fil, etc. Okay. Mais plus tard dans 10 ans, ça sera plus des références. Les références, ça sera par exemple le prompt. Quel est le meilleur prompt qu'il fait pour avoir ce qu'il veut? Et ça sera ça.
Alors,
la civilisation va changer, les gens comment ils vont
réfléchir,
et les repères vont changer.
L'exemple de la calculatrice. Et j'ai un deuxième exemple.
Ouais.
Le dictionnaire pour les plus âgés.
Ouais.
Avant, tu lisais un livre, tu tombais sur un mot compliqué, tu allais chercher le gros dictionnaire familial.
Non, je zappais, moi, je...
Que tu descendais de l'étagère, tu cherchais, et pendant que tu cherchais, il y a le cerveau qui travaille. Une fois que tu réussis à trouver des oxyribonucléiques, il est complètement absorbé et c'est un mot que tu n'oublieras plus jamais.
Voilà.
Par contre, maintenant, l'intelligence artificielle qui corrige automatiquement.
C'est ça.
Tout cet effort de mémorisation et d'apprentissage n'est plus fait par le cerveau.
Oui, mais c'est ce que je dis, ça va changer.
Oui,
notre réflexion
de...
par rapport à l'apprentissage va changer.
Non, mais
et
ça,
vous allez voir.
Ça dépend aussi Non, ça dépend de nous, de ce qu'on cherche. Moi, par exemple, j'appréhendais l'outil dans l'IA et c'est grâce à Karim que je l'utilise plus souvent parce que j'ai vu qu'il gagne du temps, etc. L'IA, je ne l'utilise pas pour corriger l'orthographe, par exemple, mais vraiment pour aller chercher une information difficilement accessible.
Non, mais tu pourrais l'utiliser parce que tu as déjà une
Tout
base.
Tout à fait.
Voilà. Tu as appris. Non,
mais
ça t'économise du temps et de l'énergie.
Pas que sur l'IA.
Faut que l'éducation s'aligne avec les métiers.
Voilà.
Qui vont avec.
Est-ce que vous pensez
les enfants
pensez
d'aujourd'hui
pas...
Et vous pensez que c'est le cas actuellement, à fortiori en Algérie?
Du tout.
Comment convaincre les établissements primaires qu'il faut ajouter un module de codage et de robotique?
Parce que si...
Comment les convaincre?
De par le nombre d'outils qu'on utilise par jour, qui utilisent et les codes, et de l'intelligence artificielle, et du HAD, etc., d'ici peu de temps, ce sera des boîtes noires. Du coup, si on ne maîtrise pas l'outil, c'est-à-dire on peut prompter une machine.
Oui.
Mais si, pour des intentions bonnes ou mauvaises, celui qui a, là pour le coup, vraiment développé la machine, lui dit de ne pas répondre aux promptes. Là, on a des bibelots. Ça, ils ne servent absolument à rien. Et c'est un peu ça le problème.
C'est pour ça qu'il faut développer sa propre intelligence
Bien sûr.
Artificielle.
Il faudra aussi avoir des programmes flexibles.
Et pas utiliser d'autres intelligences artificielles et dire qu'on a développé notre...
Non, mais
il faudrait
c'est l'utilisation, c'est tout. Ça peut faire gagner du temps. Oui, mais c'est pas l'IA.
Oui, mais si demain, on te donnait l'occasion d'aller défendre le projet, d'ajouter une matière... codage et robotique à l'école primaire.
Ouais.
Quels seraient vos arguments là, profiter
pour
de l'occasion pour convaincre ces responsables?
Les arguments là maintenant, on utilise par exemple, on parle souvent d'un projet de tablette.
Mm-hmm.
On dit qu'il faut utiliser
cette
tablette.
C'est une mauvaise idée et l'expérience Magellan de Microsoft au Portugal l'a prouvé.
Par exemple.
C'est qui a été un fiasco.
Au Japon aussi.
Au Japon, ils ont eu l'intelligence, comme le disait Yasmine, d'adapter justement le programme éducatif en fonction de la tablette, ce que n'a pas fait le Portugal.
Voilà.
Après, ils peuvent utiliser ces différents outils. Ça, on utilise cette tablette pour éventuellement avoir accès à un cours, etc. Mais si jamais la tablette ne fonctionne plus, est-ce qu'on ne fonctionne plus aussi? Et c'est un peu ça le problème.
C'est la fameuse expérience de Brown, hein? C'est-à-dire qu'on est dans une île déserte demain, tous autour de la table. Qui parmi nous est capable de générer un circuit électrique? Personne. Qui est capable de générer un moteur à
mais
vapeur?
Mais probablement l'instinct de survie qu'on a commencé à
donc il y a une déperdition du savoir qui, au final, en cas de retour à l'âge de pierre, waouh.
Et ça, c'est valable, justement, parce que les gens le disent souvent pour l'IA, mais ils ne le disent pas assez pour les langages programmation. Même tous les langages programmation, c'est pas un langage machine. C'est des fonctions prédéfinies, c'est de la syntaxe pour utiliser un langage machine. C'est pas de l'assembleur. D'ailleurs, maintenant, quand on parle...
C'est un émulateur de langage, comme le disait Fordman. Émulateur de langage.
On parle de langage d'assemblage, on se dit non, laisse tomber, c'est très difficile. Non, mais justement, parce que c'est ça. Ça gère des registres.
On enseigne toujours du C++
exactement.
À l'université.
Exact.
Mon fils, il le fait, ils font du C++. Donc,
dans les écoles d'ingénieurs, notamment la mienne, c'est toujours du Fortran. Hein, donc, mais encore une fois, c'est la logique.
C'est la logique, tout à fait.
Comprendre la logique, comment ça fonctionne. Et on arrive déjà à la fin de cette émission.
Déjà.
Très vite.
Ça passe super vite quand on s'amuse et qu'on apprend. L'occasion pour moi de vous remercier, Hind, Karim, Hatem, Delila, de votre fidélité, de l'apport extraordinaire que vous apportez à l'émission.
C'est nous qui te remercions, Reda.
Merci beaucoup à nos invités qui jouent le jeu à chaque fois. Merci beaucoup à la fine équipe derrière la grille. De toute façon, eux, ils n'ont pas le choix, ils sont payés pour, donc ils sont toujours là. Et évidemment, merci à nos auditeurs, merci de nous soutenir. On lit tous vos commentaires, tous vos messages. Donc franchement, yate comme ça. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour le prolongement de Médiatique qui va s'intéresser cette fois-ci au club étudiant. Ça s'appelle le grand oral des clubs étudiants. Le tout premier match, ça va être un match au sommet, en l'occurrence le CAP de l'École Nationale
avec spectateurs et supporters et
public, qui va affronter le Nexus Club de l'INSAC. Merci beaucoup à tous et n'oublie pas toi qui m'écoute et que je tutoie. Si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.
Beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then heavy hair turned with the ice.
my son.